Merci Laetitia Gaillet, retour de l'information à midi.
Bonjour.
Tanguy Bassureau.
Ouais,
salut. Ouais. Et notre invité, Sam Kamman.
Bravo Sam.
Allez, à Tanguy.
Bravo Sam. Il est pas là.
J'aime bien quand il y a Tanguy au début.
Il arrive par contre. Nous allons parler du visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt. Cette pièce qu'il joue, il incarne Sigmund Freud dans cette pièce. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme blind test?
Oh, un truc sur la psychanalyse.
Les mères.
Ça va être très compliqué.
Non.
Gangnam Style, Psy.
Ouais.
C'est quoi ça?
C'est le coréen. YouTube coréen.
La danse du cheval.
Oui.
La danse du cheval.
Après la danse des canards, la danse du cheval.
Oh là là, ça, mais
qu'est-ce qu'on va faire avec...
Attention.
Tanguy.
Oui, Tanguy.
Les Sex Pistols, God Save the Queen, non?
Ah bon.
Non, je me trompe. Oui, c'est ça.
Mais pourquoi dans ce...
Oui, je vois pas.
Sexe.
Queen.
Pistole. Ah, le sexe.
Merci.
Les pistoles.
Freud.
Non, on est pas...
Donc vous avez pas bossé, on est d'accord.
Bah si.
Mais si.
Ok, donc il y a...
pas bossé, on bosse le...
Il y a le psy, il y a le psy.
Ouais.
Et God Save the Queen.
Oui, bah, oui d'accord, pas. Le visiteur, pardon, excuse-moi, voilà. Mais le temps que ça vienne, c'est
bah,
le matin.
Voilà. Bah, tant que ça vienne.
Donc c'est pas le sexe.
Ah, moi j'aurais dit sexe et Freud.
C'est une rencontre...
Et voilà,
non, c'est une rencontre entre Dieu et Freud.
Tu veux parler, Léla?
La pièce.
Leila, oui. Psycho Killer, Talking Heads.
Mais ça, je crois que si.
Je trouve à chaque fois.
Si par hasard on le prend à Leila, elle te crève un œil.
Ah, mais là, je te tue. Si vous prenez cette
T'as déjà pris un cas de couleur dans la paupière.
J'ai très envie de le faire dans un karaoké. Je sais pas, Morgane, tu me suis
Toujours.
Une fois, j'ai
toujours
pris...
dans les mauvais plans.
Donc, on peut l'écouter. Better.
Ça devient difficile. Oh, c'est vrai.
Yeah. On va encore moins nous dire bonjour.
Ah oui.
Attention, qui chante?
Morgane, Ariana Grande.
Jolie.
Oui.
Tu l'as chantée avant de la reconnaître.
Pablo vient.
Non, c'est Ariana Grande.
Oh,
tous les trucs,
il est en forme, Nagui en fin de semaine, il est en forme. Le vendredi, c'est son jour.
Ah, moi, puis surtout, on est en fin de saison, quoi. Bientôt l'été et tout, c'est génial.
Oh, arrête,
ça passe tellement
vite. Écrit dans mon corps.
Tu as le titre ou pas?
God is a woman.
Exactement.
Enfin, il n'y a pas sexe dans le titre alors là.
Il y a God. T'as pas compris, hein?
Non,
donc, c'est Dieu. C'est Dieu et
c'est Dieu.
Oui, la rencontre est entre Freud et Dieu.
Ah, d'accord.
D'où les Sex Pistols.
D'accord.
Mais c'est que t'as pas vu la pièce pour ça.
Non,
qui chante?
Ah, mais si, bien sûr.
Ça, c'est du hip-hop,
C'est américain.
Non,
et
c'est français.
Non.
C'est
Tanguy. Je sais pas, Kenneth.
Leila, psychiatre de la rime.
Joli, psychiatre de la rime.
Ah, mieux quand il y a des petits triangles en plus.
J'allais dire sniper, tu vois.
Moi, j'allais rien dire.
Il faut chercher psy ou Dieu.
Ah, bah oui,
psychiatre.
Mais je comprends.
Psychiatre.
Moi aussi, je viens de comprendre.
C'est pas Gérard Depardieu l'invité aujourd'hui?
Attention, alors attends, qui a marqué là? J'ai raté des points.
Depuis le début, t'as rien noté.
J'en ai mis deux.
Titre.
Il serait temps de larguer les amarres
au fond.
Qui chante ça?
Leila.
Tanguy.
Oui.
Non.
Tanguy.
God Only Knows, les Beach Boys.
Nice. Oh là 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 là.
J'ai cru que ça hésitait.
Ça a mis du temps à monter.
Ouais.
Je nous ai fait une Leila.
Ah oui, oui.
Bravo.
Ouais, ça devrait être.
T'as Leila le truc là, hein, complètement.
Ouais.
Bien joué.
Je pourrais avoir un demi-point là-dessus.
Mais non, mais vraiment,
t'as un droit d'auteur.
Ouais, c'est vrai.
Propriété intellectuelle.
Bah ouais.
Je l'avais, mais sans l'avoir.
Deux points pour Tanguy, deux points pour Leila, un point pour Morgane, un point pour Tom.
Bah, Alexis. Noël, ça.
Bah, j'avais presque psychiatre de la rime en disant sniper.
D'accord.
Ouais, bah.
Ouais,
merci, merci Alex.
Tous se jouent. Il vient de comprendre le thème maintenant, si tu veux. Tous se jouent maintenant, ça rapporte 3 points. Il y a Oupsi ou Dieu dans l'histoire.
Oh, Daniel. News.
Quoi?
Ouais. News, ouais.
Psycho.
Oh, Daniel.
Bravo.
Allez, le gros rock qui tâche.
Je suis un peu déçu de ne pas l'avoir eu. Ouais. Le son de cette guitare.
Dingue.
Là, on voit Daniel sur une moto.
Ouais.
Traversant le
désert. Sans manche.
Non. Gilet en cuir. Gilet en cuir, rien en dessous.
Tu m'as vu ça.
Et c'est débordante.
S'il fait de la moto, de toute façon, les manches remontent là. Donc, c'est forcément sans manche.
Assis avec ses images.
Oui. Oui.
Merci d'accueillir Sam Kamman.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui.
Bon, j'ai un peu dévoilé l'intrigue de la pièce. Bienvenue Sam, on est toujours ravis de vous accueillir.
Merci.
Vous faites partie de ceux que l'on aime et Dieu sait s'il y en a beaucoup que nous n'aimons pas.
Ils sont pas nombreux, je peux vous
le
dire.
Depuis le 8 septembre et jusqu'à mi-décembre, vous jouez le rôle de Freud, à la fois un rôle d'un psy, le rôle d'un papa aussi, et puis dans une situation historique particulière, un peu tendue, même si on rit de temps en temps dans la pièce, mais ça commence par les nazis qui viennent enlever votre fille.
Oui, c'est le point de départ, c'est un choc pour lui parce qu'il y croyait pas, Freud, c'était quand même une star à l'époque. Hein. Et donc, juif, pas juif, c'était quand même une autorité, et donc il pouvait penser qu'il allait passer au travers de ces problèmes-là. Et puis finalement, non, on vient et on lui prend sa fille à partir de là.
On est à Vienne en 1938.
On est à Vienne en 1938, oui. En avril 38, il y a eu l'Anschluss. Et c'est l'Allemagne qui est là, hein. Ils ont mis après l'Autriche, tranquille. Et puis
tranquille. Voilà, c'était le point info. C'était le point info de ça.
Mais c'était tranquille quand même. Ouais, non, mais souvenons-nous. Et Choujnik, bon. Et à partir de là, voilà, ce choc crée. Alors on ne sait pas si c'est voilà, on est dans la tête. Le spectacle, on est dans la tête de Freud et il fait une rencontre, une apparition et.
Quelqu'un est recherché dans l'immeuble par les nazis. Mmh. Quelqu'un pénètre dans l'appartement de Freud et Freud lui demande qui êtes-vous. Réponse du visiteur, si je vous le dis, vous ne me croirez pas.
Ouais. Et moi je lui dis alors sortez parce que on s'amuse pas avec moi là.
Mais en même temps, moi je trouve ça tellement drôle. On peut imaginer que Dieu où qu'il aille, s'il dit personne ne croit.
Ouais, tout à fait.
Comment vous appelle réponse personne.
Quel est votre nom?
Quel est votre nom?
Je n'ai pas de nom. Quel est le nom de votre père? Ouais. Non, personne ne m'appelle.
C'est ça.
Non, votre prénom. Oui. Non, personne ne m'appelle. Ouais,
personne
c'est
ne
ça.
M'appelle.
Vous et donc, mais il est quand même très intelligent, ce type qui n'a pas de nom, qui ne veut pas dire, qui ne veut rien dire et à la fois. Il m'entraîne dans une conversation à bâton rompu.
Il connaît beaucoup de choses, il révèle beaucoup de choses, il est troublant, il a un côté magicien, médium, en tout cas, qui peut interroger. Et puis ça devient une espèce de psychanalyse de Freud, parce que chacun va s'expliquer l'un à l'autre. Cet échange est absolument croustillant. On est ravis de vous accueillir pour cette première fois dans la bande originale. Nous, on est ravis. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est Morgane Cadignan.
Malheureusement.
Morgane ne vous aime pas,
ça. Ah, voilà, c'est ça.
C'est la seule.
Ah, Sam Carman, je vous aime pas, mais c'est la première fois que vous venez dans l'émission depuis moi. Donc, voilà, c'est une nouvelle échelle de.
Exactement. Ouais,
le calendrier, Morgane.
Donc, j'ai lu votre biographie avec plaisir. Vous êtes né en Égypte. Ah, bah, vous êtes deux, finalement.
Bah, oui,
si on avait su, ça fait 2 ans que je surnomme Nagui le petit prince du Caire, alors que c'est peut-être même pas lui, usurpateur. Hein.
Non, d'ailleurs, moi, je suis d'Alexandrie, pas du Caire.
Voilà, et moi de Porcelaine. Donc, il n'y a pas de carotte. Il n'y a pas de carotte ici.
Il n'y a pas de carotte.
T'as une vanne sur les carottes.
Mais je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé.
Je suis la première des
choses. Sam, vous jouez dans Le Visiteur au Théâtre Rive Gauche, une pièce qui mêle 3 choses qui me terrorisent. La psychologie, les nazis et le 14e arrondissement. Moi, vivre à Denfert Rochefort en 39, mais c'est mon pire cauchemar. Quoi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un blocage avec le quartier Montparnasse. Les rues m'angoissent. Une crêperie, des pompes funèbres. Ah, la fin de la journée, je ne sais plus si j'ai envie de crever ou d'une beurre sucre. Quoi. Donc, alors, la pièce, on ne peut pas dire que c'est du boulevard. Le sujet est quand même très, très fourni. Ce n'est pas une pièce au sujet hyper light. Hein. Si vous voulez Laurent Baffy qui glisse sur sa bite, il faudra repasser. Là, on est en Autriche sous l'occupation nazie et Freud voit sa fille embarquée par la Gestapo. Désespéré, il reçoit la visite d'un homme étrange. Qui est-il? Un fou? Un rêve de Freud? Une projection de son inconscient? Dieu lui-même, Laurent Baffy. Attention à ne pas glisser. Sam, dans la pièce, vous incarnez Freud et je suis ravie. Parce que moi, je suis pas née à la bonne époque pour rencontrer Freud. Et c'est vrai que du coup, maintenant, pour moi, Freud, bah, c'est vous, Sam. Et je dis pas que j'ai absolument besoin d'une psychanalyse. Hein. Je dis juste que je suis humoriste, vivant à Paris et qu'une de mes plus proches amies est Fanny Ruet. Donc, 1 ou 2 séances, pourquoi pas. Et je vous avoue que je faisais une thérapie avant, mais il y a quelques mois, j'ai racheté une télévision. Et putain, c'est génial, en fait. Je me pose vachement moins de questions depuis que les publicités le font à ma place. Dès que j'ai du temps libre, hop, t'es loche, j'ai plus d'angoisse ni de neurones et ça vaut bien la redevance. Du coup, j'en profite quand même, Sam Carman, enfin, Sigmund Carman, parce que j'ai loupé quelques séances depuis qu'il rediffuse tout Grey's Anatomy. Dites-moi, est-ce que être persuadé que cette chronique est de bonne qualité, c'est nier le principe même de réalité?
Ouais.
Est-ce qu'avoir signé pour une deuxième année à la bande originale relève d'une pulsion de mort autodestructrice ou plus sûr d'une pulsion de vie d'avoir envie de voir Leila Kadour chaque jour que Dieu fait? Et est-ce que Dieu existe, Sam Carman, ou est-ce que Dieu est juste Daniel Morin avec une barbe un peu plus longue et une meilleure crème hydratante? Je sais pas. Je suis un peu perdue. Et surtout, la plus grande question de l'existence de l'homme, qui mieux que Renaud peut entretenir votre Renaud? Voilà, je crois que je vais prendre ma téloche. Je vais me prendre des places de théâtre pour venir vous voir. Ça me met face à deux grands défis de ma vie, me cultiver et aller à Montparnasse.
Et on retrouve Morgane du jeudi au samedi à 20h au Métropole Théâtre. Elle reste chez nous, rive droite.
Sam Carman, non, mais vous êtes au théâtre d'Éric Emmanuel Schmitt. Il est l'auteur de cette pièce.
On est en circuit fermé là.
C'est... Théâtre rive gauche.
D'ailleurs, ça se joue à huis clos.
Il est bien servi. Non, ça se joue au théâtre rive gauche. Johanna Boyer en a fait la mise en scène. Franck Demet est avec vous. Katia Ganti et Maxime de Toledo sont également sur scène. C'est une création qui a été interrompue par le virus.
On devait le faire pour Avignon 2020, puis faire une pré-tournée à l'automne 2020, et puis la créer en janvier 21, et puis voilà. On a perdu un an, donc on a fait Avignon de 21. La pré-tournée, si, on l'a. Alors c'est ça, c'est qu'on a fait trois représentations ou quatre en octobre dernier, et puis paf, terminé.
Tour de chauffe.
Donc on a tout congelé. Vous savez, comme les. On a tout congelé, et on l'a ressorti.
Hibernatus, et ça revient.
Et on l'a ressorti au mois de.
Et pardon, dans ces cas-là, on pense pas aux disponibilités des acteurs, des actrices, de la salle, et ainsi de suite. Comment on s'arrange? Est-ce que vous étiez tous libres, ou vous êtes libérés? Comment ça se passe? Parce qu'il y a des contrats aussi. Pour des fictions télé, pour des films.
On a pris, si vous voulez, on a pris la décision en octobre dernier, quand on a vu qu'il y avait le deuxième confinement. Là, on s'est dit, bon, on va pas attendre, quoi. Ça va rouvrir en janvier 21? Non, ça va pas rouvrir.
C'est vrai que le deuxième, on parle beaucoup du premier confinement, mais le deuxième a fait beaucoup de mal au théâtre parce qu'il y avait l'espoir disant la semaine prochaine.
L'investissement aussi. Ils ont imprimé des affiches.
Et je me souviens qu'on avait reçu, je crois, c'est Cad Merad qui était venu en disant, on reprend mardi prochain, et le soir même était annoncé le deuxième confinement.
Et donc on s'est dit, on a pris la décision, enfin c'est Éric Emmanuel aussi qui a dit non, je veux pas brader ce truc là, donc c'est pas janvier 21, est-ce que vous êtes d'accord pour être en septembre 21? Et comme on savait qu'on allait le jouer à Avignon, je me suis dit, voilà, c'est bien. En plus, on arrivera à Paris, on l'aura joué un mois à Avignon, donc ça sera, on sera rodé. Moi, j'adore ça, arriver dans cette grande ville violente, mais en ayant bien fait mon travail d'artisan.
Dieu et Freud se rencontrent, tous les opposent, et c'est ça qui devient intéressant dans la pièce, c'est-à-dire ces deux esprits qui se frottent, à savoir, est-ce que ce sont deux esprits qui se frottent l'un contre l'autre, ou est-ce que c'est Freud qui se frotte
à sa propre contradiction
et à sa propre conscience.
Mais c'est vrai, c'est là où la pièce, elle est vraiment remarquablement écrite par Éric Emmanuel, c'est qu'il file pas de leçon. il donne pas de leçon. Non. Il dit pas, vous croyez, bande d'idiots, vous ne croyez pas, vous êtes athées, bande d'abrutis. Non, pas du tout. Il dit, voilà, les arguments pour l'athéisme, parce que Freud, c'est le juif athée, hein, vraiment, et les arguments pour le sens de la vie. Si tu arrives, toi, non-croyant, à penser que c'est quoi le sens de la vie pour un non-croyant? C'est une question compliquée. La réponse est compliquée, effectivement. Moi, personnellement, j'adore ce personnage parce que je suis profondément athée et que je revendique chaque phrase de ce personnage chaque soir.
Donc vous vous posez des questions sur le sens de la vie.
Bah oui, bah c'est-à-dire que c'est bien beau de crâner, de dire bah ouais, bah c'est ici et maintenant, puis quand c'est fini, c'est fini. Ouais. Super, d'accord. Et donc,
on est pas
d'accord.
Obligé
voilà, mais il faut s'y faire parce que c'est comme ça.
Oui. Si, non, on n'est pas obligé de se projeter dans une vie après.
Je suis admiratif. Ouais. J'avais une mère extrêmement croyante. Elle est partie l'an dernier à 97 ans. J'ai adoré. On avait des grandes discussions. J'arrêtais pas de la charrier là-dessus, enfin sur sa foi, la charrier. Je la charriais pas parce que je voyais que ça lui apportait tellement. C'était tellement quelque chose.
Ça apporte la tranquillité à ceux qui croient en disant j'ai une autre vie qui m'attend.
Elle m'a dit, mais moi je suis tranquille, je vais partir. Mais...
Sam, vous avez peur de la mort?
Non plus. Je m'estime être un mec chanceux. J'ai choisi ce métier, artiste. Mais dans une façon totalement inconsciente, et au fur et à mesure des années, je me suis dit, peut-être que j'ai pris quand même un risque.
Ce qui est génial.
Finalement, j'arrive à 68 balais, Et j'arrête pas de bosser, je suis content, je suis heureux de ce que je fais, je suis un mec super heureux. Ben voilà, c'est gagné déjà.
Bah, attendez la fin de l'émission. Attendez là, vous emballez un peu. Là.
Ce qui est génial, c'est que cette pièce, quand bien même Eric Emmanuel Schmitt ne donne pas de leçons, ouais, il donne à réfléchir en tout cas. Il, on ne peut pas la voir sans se poser aussi des questions, sans de temps en temps être du côté de l'un ou du côté de l'autre, sans être même sur un troisième côté de cette pyramide en disant non, mais moi mon idée elle est peut-être soit entre les deux, soit totalement différente. Mais
c'est le théodicée, c'est ça ?
Ouais, théodicée, c'est la grande question, si Dieu existe, pourquoi laisse-t-il toute cette horreur sur Terre ? Et Dieu de répondre, en tous les cas, c'est ce qu'on pense, mais je vous ai donné la liberté, déberdez-vous les gars, c'est votre problème, c'est pas mon problème,
c'est
le vôtre.
Et puis, il dit au-delà de ça, ces créatures sont pas des robots, elles m'échappent, donc je ne peux pas, c'est aussi l'impuissance du Tout-Puissant aussi qui est racontée dans la pièce.
Tout à fait, tout à fait. Mais dans toutes les religions, depuis Adam et Ève, le fruit défendu, si tu ne le prends pas, t'auras l'éternité. Si tu le prends, t'auras la connaissance.
C'est ton libre
arbitre. Si t'as la connaissance, bah t'as ton libre arbitre. Et si t'as le libre arbitre, bah c'est toi.
C'est toi qui gères.
C'est toi qui gères.
Tu te débrouilles.
Mais passons sur la boîte de Pandore, hein, parce qu'on va pas revenir là-dessus.
On va pas encore incriminer les femmes. Encore. Sans cesse.
Les hystériques, tu veux dire.
Oui, bien sûr.
Arrête, on va pas revenir là-dessus.
Je vais me signer, moi.
Mais ce qui est fort, c'est que je disais donc cette pièce donne à réfléchir, mais vous aussi qui l'a joué à réfléchir. Généralement, on porte un texte et puis là aussi il y a le côté débrouillez-vous, vous public, vous sortez de la salle ou du théâtre Rive Gauche et à vous de discuter, d'aller prendre un café et d'échanger, mais ça vous questionne.
Bah, c'est-à-dire que je commence à avoir des réponses au bout de la 60e représentation, oui, je commence à bien, mais vraiment...
Vous avez des réponses, ça c'est fort. Bah,
j'ai des réponses, en tous les cas, elles m'aident à les accepter, à les formuler. La première fois que j'ai lu dans le texte, le mal, c'est la promesse qu'on ne tient pas, je me suis arrêté là-dessus en disant, c'est vrai. C'est vrai, la trahison, le dire et ne pas faire.
Décevoir.
Là, en ce moment,
y en a.
Dire et ne pas faire. Ouais.
Est-ce que c'est...
Bah, en même temps, il y en a quelques-uns qui disent beaucoup de choses, on serait content qu'ils ne les fassent pas.
Clairement aussi. On est dans la situation la plus dramatique historiquement, même si c'est pas un match ou un classement des situations les plus dramatiques, mais la présence des nazis, la Gestapo, l'enlèvement de la fille de Freud, en ne sachant pas ce qui va lui arriver. Et donc on est vraiment là dans un cas extrême et on a presque le sentiment que Dieu vient se faire psychanalyser chez Freud autant que Freud de se confesser face à Dieu. C'est dans ce moment extrêmement tendu, j'ai presque envie de dire dans la vie des deux, si on croit aux deux.
Oui, et on passe d'abord, c'est d'abord pendant une fraction de, pas de seconde, mais pendant quelques, peut-être une minute, Freud se dit... Bon, ça y est, j'ai Dieu en face de moi, c'est juste pas possible, c'est pas possible. Et il essaye de se ramener à une réalité. Pourquoi le type lui raconte toute sa vie.
Il est pragmatique.
Ah oui.
Il lui annonce les prochaines
Freud
heures.
Freud est sur le canapé et Dieu lui dit, si, moi je vais t'expliquer. Quand t'étais petit, ton père, tu l'as perdu, tu avais 13 ans, etc. Et il lui remonte.
Et là, c'est troublant. Et comment vous savez-vous? Et comment vous savez ce que je vais écrire? Et comment vous savez ce que j'ai en tête? Et comment vous savez? Après, il y a l'histoire de testament et ainsi de suite. Il y a beaucoup de rebondissements dans la pièce. On va pas tout dévoiler et laisser au public le soin de le découvrir.
Ce que je voudrais dire,
je vous en prie.
Si je peux naviguer, c'est que il ne faut pas se dire, oh là là, la prise de tête de cette pièce, mais pas du tout.
Parce qu'il y a des moments où on se marre.
Dans
aussi.
La cour d'école, on s'est tous dit, mais tu crois en Dieu, toi? Voilà, c'est ça, mais sauf que c'est la question posée entre adultes et pas entre enfants. C'est-à-dire que ça va un petit peu plus loin.
Et
mais...
comment jouer Freud? Est-ce que vous documentez, vous vous renseignez pour savoir comment il se déplaçait? Par moments il a une canne, par d'autres moments
alors,
il n'en a pas.
Alors cette histoire de canne, c'est que la pièce commence, il a 82 ans.
D'accord.
Et il va mourir un an plus tard d'un cancer de la gorge. Donc j'arrive et j'impose une image de vieillard, parce que je suis maquillé, je suis tout blanc. Enfin,
au bout de sa vie, j'ai
un peu la chance de ressembler un petit peu comme ça, chauve, avec les cheveux blancs, la barbe blanche, tout ça.
D'ailleurs, c'est drôle, Dieu lui dit qu'il va mourir un 23 septembre, et il s'arrête là, et c'est votre date de naissance.
Il se trouve. Ouais, c'est drôle, ça.
Il y a quelque chose.
Ouais,
il y a quelque chose,
Sam. Eric Emmanuel Schmitt le savait, il a écrit pour ça, non?
Non, parce que c'est la vraie date de Freud.
Freud est mort le 23 septembre 1939.
Et Sam est né le 23 septembre 53.
D'accord, je me dis juste Sam, que l'auteur le sait, que c'est pas un hasard.
1936.
L'auteur a choisi Sam Karman exprès pour parce qu'il parce que non dans la pièce quand
Dieu je connais
Eric Emmanuel Schmidt aurait influencé la mort de Freud.
Il a écrit la pièce en 92.
Est-ce qu'il est le père de Sam Karman et c'est très bien.
Est-ce qu'Eric Emmanuel Schmidt est Dieu?
C'est une super coïncidence.
C'est une très belle
coïncidence. Mais je croyais que vous étiez pas croyant, c'est surtout ça le truc.
En plus.
Oui, mais c'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer.
C'est ce que j'allais dire, vous êtes
on était où au départ de la
septembre. Non, vous arrivez en vieillard et l'évolution voilà, du personnage.
Oui, pourquoi la canne? Merci.
Merci Tom. Qui suis Tom, c'est Tom Villa.
On peut compter sur Tom.
Donc j'arrive avec la canne et je suis ce vieillard qui a Koshim. Et puis le nazi arrive, je suis terrorisé, j'ai plus la force, je peux rien faire, je suis vraiment... Bon. Arrive Dieu, et là tout d'un coup, ce type, je n'ai plus... Voilà. L'idée, c'est que j'ai plus de corps, j'ai plus d'âge. Je suis le cerveau de Freud.
C'est que l'esprit, c'est plus l'enveloppe.
C'est plus l'enveloppe. Parce qu'il y a eu ce petit coup de magie aussi, machin.
Et ça revient. Il n'est plus là. Vous reprenez votre démarche. Mais ça, c'est le
jusqu'au moment
le jeu.
Où la fille arrive. Oui. Et là, on fait. Alors attends. Maintenant, il est toujours là. Oui, mais c'est peut-être le mec du parc. Et à partir de là, Freud fait. Jusqu'au bout, il va falloir. Prouve-moi, fais un miracle, prouve-moi. Il ira jusqu'à donc gloire le Dieu.
Bah oui, non, mais dites pas tout. Il y a une phrase qui est forte justement, c'est-à-dire quand la fille vient et voit Dieu dans la pièce, dans le salon de son de son père, elle voit une personne qui n'est peut-être pas la même personne vue par Freud. Voilà, et Dieu dit, on voit l'enveloppe que l'on veut, on projette l'image que l'on veut.
Elle est extraordinairement construite, cette pièce, quand même.
Ça s'appelle Eric Emmanuel. Ça s'appelle Le Visiteur, signé Eric Emmanuel Schmitt, formidablement joué par Sam Karman, qui est notre invité, jusqu'à midi et demi. Et voici Monsieur Alexis Le Rossignol. Ah, oui. Bonjour à tous. Bonjour à toi.
On parle de Dieu, on parle de Freud, ça tombe bien. Hier, j'étais dans le métro. Et à un moment donné, à la sortie d'un virage, j'entends « Messieurs, dames, contrôle des titres de transport, s'il vous plaît. Ferrare, j'avais un ticket. » Donc j'étais content. J'ai fait un peu de zèle, du coup. Hein. J'ai dit au contrôleur « Bravo les gars, vous et les huissiers, vous faites vraiment du super boulot. Continuez comme ça. » Devant moi, il y avait deux dames, la soixantaine, mais qui, elles, n'avaient pas de ticket. Et là, j'entends l'une des deux dire à l'autre « On a joué, on a perdu, tant pis. » On a joué, on a perdu, quoi. J'ai failli leur dire, mais mesdames, Josie et Françoise, qu'est-ce qui s'est passé? Le cours de marche nordique a été annulé, vous aviez besoin d'adrénaline, vous portez des méphistos et un coupe-vent La Fuma. Quel est l'enjeu pour vous? Punk is not dead, ok, mais un peu quand même. Et en même temps, c'est ça la France. En France, on aime resquiller, on aime gratter, on aime les flous juridiques et les petites combines. La France, c'est le commercial qui fait son plein le vendredi soir avec la voiture de fonction. C'est le petit coup d'épaule discret dans le distributeur automatique parce qu'il y a un Mars qui est prêt à tomber. La France, c'est les notes de frais un peu gonflées au resto. Vous pouvez mettre un menu complet, s'il vous plaît? Mais monsieur, vous n'avez pris qu'un café? Ah oui, très juste. Du coup, est-ce que vous pouvez mettre un menu complet et un café, s'il vous plaît? Après, faut dire qu'en termes de fraude, en France, bon ben, on a une classe dirigeante qui nous coach, en quelque sorte. Hein. J'ai lu l'évasion fiscale pour les nuls de DSK, là, c'est vraiment très complet, quoi. La France, c'est les Français en vacances à l'étranger aussi, qui savent très bien qu'il faut laisser un pourboire, mais qui disent, oh ben attends, ils ont qu'à intégrer le service dans la note. Hein. En plus, est-ce qu'on a été si bien servi que ça? Hein, leur soupe, là, le gazpacho, il était Donc bon, la mauvaise foi en France, c'est pas vraiment un défaut. Tu tapes « Les Français n'aiment pas » dans Google, la première proposition c'est « Les Français n'aiment pas les règles ». Ça dit beaucoup de choses quand même. Hein. Alors que quand tu tapes « Les Espagnols n'aiment pas », bon ben la première chose c'est « Les Espagnols n'aiment pas les Français ». Ça dit beaucoup aussi, remarque. Hein. Pareil, quand tu tapes « Les Belges n'aiment pas », la première proposition c'est « Les Belges n'aiment pas les Français ». On est entouré de mauvais perdants en fait. Tout ça pour dire quoi? Eh ben j'y viens. Selon une étude de psychologie qui s'appelle « The Unexpected Affective Benefits of Unethical Behavior
». One more time.
Ouais, c'est pas mal. Non, j'ai une nounou qui est anglaise. « The Unexpected Affective Benefits of Unethical Behavior ». Le mercredi après-midi, elle vient me prendre. En français, les inattendus affectifs bénéfices de... Ouais, j'ai pas réussi à traduire. Mais selon cette étude, la triche génère un sentiment de bien-être. Parce que ça envoie un petit shoot de dopamine dans le cerveau. C'est pour ça qu'on dit que la triche est une drogue. Et Josie et Françoise du métro, elles sont pas sevrées. C'est des junkies en fait. Elles sont là pour elles cherchent à se faire des lignes gratuites. La France, c'est Mathieu Delormeau aussi. Mathieu Delormeau, vous voyez qui c'est?
Ouais.
C'est un chroniqueur de TPMP. Chroniqueur dans TPMP, c'est comme chroniqueur ici, sauf que t'as pas de chronique à faire. Tu donnes juste ton avis sur tout. Et si t'as rien à dire, tu dis, ben, moi, je pense comme Cyril. Et voilà. Et bref, ben, Mathieu Delormeau, il a dit la semaine dernière qu'il avait une technique pour pas payer au restaurant. Technique de champion. Il s'installe, il passe sa commande, il fait une souris sur Instagram, il mange, et à la fin du repas, il dit, est-ce que je vous dois quelque chose? Sous-entendu, moi, le mec un peu connu, qui vous a fait l'honneur de venir chez vous, est-ce que vous m'invitez ou vous allez me faire payer? Et apparemment, ça marche. Dans un tiers des cas, les serveurs lui disent « Non, c'est bon, c'est pour nous ». Il dit merci et il s'en va. Et ils s'en vendent surtout. Alors que c'est quand même une belle technique de parasite, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai pensé au début, puis après je me suis dit « Eh, c'est pas con quand même, hein ». D'ailleurs, j'ai mangé dans un resto samedi soir. Voilà. J'étais avec un pote, je lui ai dit « Vas-y, prends ce qui te fait plaisir, c'est moi qui invite ». J'avais une idée en tête. J'ai mis ma carte de Radio France en évidence sur la table. Quand le serveur passait, je disais des trucs du genre « Bien sûr que j'en ai discuté avec Nagui, attends, quand j'ai un truc à lui dire, je lui dis à Nagui. Hein. » Ou alors « Daniel Morin ?»« Bah écoute, Daniel, je le connais quand même suffisamment bien pour te dire que non, c'est pas un mec très très sympa. » Je laissais des indices comme ça pendant tout le repas, quoi. À la fin, je dis au serveur « Est-ce que je vous dois quelque chose ?» Il m'a dit « Oui, 57 euros. » Bon, ben, j'ai payé 57 euros, quoi. C'est peut-être parce que c'était un restaurant indien, remarque. Voilà. J'ai serré ce midi à la cantine de Radio France.
Merci. Merci.
Et Alexis Le Rossignol, tu es ce soir à Soulan, en Vendée, et demain tu seras au République à Paris.
Exactement. Une situation très particulière, on est avec les nazis qui envahissent l'Autriche, Sigmund Freud est en forme de dépression, sa fille est embarquée par la Gestapo, il doit signer un papier pour pouvoir partir à l'étranger.
Et quel papier ? Ouais. Un papier disant que tout se passe bien avec les nazis, qu'ils sont respectueux, que c'est une voilà, en bonne entente, et il pourra ainsi quitter le pays.
Et d'ailleurs, on se demande si c'est pas le but profond de ce visiteur. Pars, et il lui dit à la fin, pars, sauve des gens, fais quelque chose, plutôt que de rester assis sur ton fauteuil de psy, toute star que tu es, toi.
Donc il y a ce côté, cette dépression que vit Freud, d'un côté, Dieu qui peut vivre une dépression de voir une deuxième guerre mondiale, un génocide, et les nazis exercer leur horreur, et les deux sont en dépression, et les deux vont vont analyser l'autre, finalement. C'est ça, cet échange, ce dialogue entre Freud et Dieu.
Je sais pas si c'est de la dépression.
Non, mais Dieu pourrait s'allonger sur le divan de Freud, comme Freud pourrait se confesser à Dieu.
Oui, c'est ça, mais ils argumentent sur le fait que, effectivement, Dieu donne des perspectives, il nous dit dans quel monde nous allons aller, alors évidemment, c'est ça, toute la subtilité de l'écriture qui a été écrite en 92, mais en 92, donc, ce que je vois, en tous les cas, c'est que l'auteur, Schmitt, il nous parle de l'écologie, il nous parle de toutes ces grandes transformations qui nous attendent, toutes ces choses auxquelles nous sommes confrontés, nous, maintenant, aujourd'hui, quoi. C'est
visionnaire.
Un peu flippant.
Voilà. La musique dans la vie de Sam Garman, on va commencer en 76. Énorme super tendre. C'est l'un des titres les plus flippants de Supertramp qui a fait des Logical Sound, des Breakfast in America plus légers. Pourquoi ce titre pour vous ?
Tous les titres de Supertramp, tout d'un coup, j'ai... à l'époque, je partageais un appart avec mon ami Bakri. C'est lui qui m'a dit... j'adorais la musique de Supertramp, mais il m'a dit « T'as entendu les paroles ?» Et en fait, non, j'écoutais pas les paroles. Ah, je trouvais ça super, Supertramp. Je dis « Écoute les paroles. » Et à partir de là, je me suis branché sur les paroles. C'est magnifique. Toutes les chansons de Supertramp, c'est un groupe, mais putain d'engagé, quoi. Mmh. Je veux dire, ça balance les trucs. Et là, c'est quoi cette chanson ?
Crime of the Century.
Ouais, c'est le pouvoir de l'argent, les puissants, voilà.
Donc c'est le message qui vous plaît.
Ah, bah oui, mais.
Autant que la musique, ouais.
Ah, mais quand j'ai adoré cette musique et ce groupe, et en plus, il y avait
du sens.
Sens, voilà, j'adorais ça.
Et dès les années 70, en fait, c'est une vraie belle histoire d'amitié qui commence avec Jean-Pierre Bacri.
Ouais.
Vous jouez ensemble, il écrit, vous jouez aussi dans la pièce, vous avez même co-écrit, je crois, une pièce qui a jamais vu le jour.
Ouais.
Qui s'appelle « Quand je serai grand ».
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais. C'est toujours émouvant d'évoquer le souvenir de Jean-Pierre Bacri qui venait souvent dans cette émission qu'on aimait énormément. Quel souvenir vous gardez de lui? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous en quelques mots?
Bah voilà, il y a les frères que la vie vous donne dans les familles. Nous avons tous des, et puis il y a les frères qu'on choisit dans la vie. Voilà, lui c'était un frère choisi, quoi. Voilà.
En 1989, vous écoutiez Henri Dess. Et on n'écoute pas assez les paroles.
Non. Ils sont putain d'engagés, franchement, ça y est.
Ça, c'est super.
Mais vous moquez pas.
Souvent, on adore la musique et on n'écoute pas les paroles.
Du respect.
Surtout, j'imagine la tête de Jean-Pierre Bacri si en colloque vous faisiez écouter Henri Dess. Je pense que ça pouvait donner lieu à une petite gueulante.
Il s'est bien foutu de ma gueule avec ça, parce que quand on se voyait qu'il y avait mon premier fils.
On est en 89, Sam, et on vous voit apparaître dans la série Navarro aux côtés de Roger Hanin, de 89 à 94, 5 ans sur cette série, 38 épisodes, et vous dites que c'est cette série qui vous a vraiment donné envie, qui a été le déclic pour faire du cinéma.
Pour faire de la réalisation, ouais. Oui, parce que je voyais des équipes qui se succédaient, on faisait toujours la même chose, hein, parce que la série Navarro, c'est toujours pareil, quoi. Il y avait une enquête, il y avait le même commissariat, on faisait des extérieurs, le commissariat, chez Navarro, et puis de nouveau les extérieurs, on faisait les épisodes deux par deux. Et puis
il faut amortir les décors.
Les mêmes histoires, les mêmes acteurs, et puis à la fin, il y en a des épisodes qui me tombaient des mains, mais je disais, mais c'est nul à chier. Et d'autres, je disais, pas mal. Et je me suis dit, mais c'est quoi, pourquoi? Mais c'est un point de vue, quoi. Il y en a qui ont un point de vue, des réals, et c'est puis ça. D'autres qui n'en ont pas. Je me suis
ce qui est valable en fiction, comme en documentaire aussi, bah c'est le point de vue qui compte.
Mais bien sûr.
Même en chanson d'ailleurs, les histoires d'amour ont été chantées des milliards de fois dans le monde de la musique et dans toutes les langues. C'est le point de vue.
Absolument.
C'est ça.
Et la direction d'acteur.
Oui, tout à fait.
Parce que ça aussi, pendant une série comme celle-ci, on peut observer comment est-ce qu'on conduit un acteur à donner le meilleur de lui-même, j'imagine.
Alors, dans les séries, la direction d'acteur, c'est pas tout à fait ce qu'on a en premier, quoi. C'est-à-dire
Tom Villa, une réaction sur Munch, des choses à dire ou pas?
Tu produis pas une série, toi, non?
Mais alors, la direction d'acteur est très importante.
Oui, c'est je suis d'accord. Après, c'est pas évident pour les réalisateurs parce qu'ils arrivent avec un petit groupe qui est déjà formé depuis 4-5 ans, donc on a tous nos automatismes, nos choses. Mais chacun apporte des trucs vraiment bien.
Et avec des obligations de minutes efficaces par jour, c'est ça.
Oui, bien sûr.
Donc c'est un rôle qui est pas évident non plus à l'heure de la charge aussi.
Réalisateur.
Pour les réalisateurs qui viennent avec des équipes. Oui, vous avez complètement raison.
C'est comment t'as recentré le débat, Tom.
Bonne analyse.
Carré.
Bonne analyse.
Moi, je remets l'église au milieu du village. Ça, c'est
cool. J'ai fait mon stage technique en tous les cas. Ouais. Ça, c'est sûr qu'au bout de 5 ans, j'avais plus grand chose à apprendre sur les découpages, sur les machins, sur les axes, sur les regards, sur les pourquoi, sur les 180. Sur...
La table régie.
Et la table régie. Ça, j'avais plus rien à apprendre sur la table
régie. C'est le nerf de la guerre. La table régie. C'est là où tout se passe.
Et Munch revient jeudi prochain sur TF1.
Voilà, ça c'est fait. En 92, Sam Carman, vous écoutiez.
Pourquoi c'est
si, c'est une plume, ça aussi. Quel texte.
Et 92, c'est l'explosion de joie, puisque vous réalisez votre premier court-métrage Omnibus, qui décroche la palme d'or du court-métrage à Cannes, tout simplement.
Ouais.
Comment vous avez vécu cette soirée, Sam?
Incroyable. Parce que c'est Depardieu qui était sur scène. En plus, j'avais pas où m'asseoir. On m'avait dit, mettez-vous là. Donc j'étais devant avec les photographes qui me disaient, j'étais là comme ça, bon. Et je vois grand prix du court-métrage. Le grand prix, machin truc. Je fais, c'est bon, ça va. Et donc, je veux sortir de la salle. Et puis ensuite, et maintenant, la palme d'or du court-métrage. Alors, je me suis un petit peu arrêté quand même.
Ça jamais.
Et puis, il a dit mon nom. Et là, tu te racontes pas les photographes autour. C'est moi, je suis monté. J'ai jailli vers Depardieu qui m'a regardé. Il a cru une agression. Il a regardé comme ça. Il m'a dit, c'est moi, Sam Carman. Ah, super.
Et vous décrochez aussi l'Oscar?
Alors. Moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est que l'Oscar, je l'ai eu parce que j'ai eu la Palme d'Or. Ça, on prête un peu corrige, non? C'est-à-dire que
Mais pourquoi le voir comme ça?
Je sais pas parce que.
Positiver,
ça reste.
Oui, mais. Non, mais voilà. Si j'avais pas eu la Palme d'Or, il allait jamais aux États-Unis, ni en Angleterre, ce film. Mais voilà. Donc, c'est comme si on tirait un fil. Le succès, c'est un fil. Voilà.
Et vous n'étiez pas présent aux Oscars, en
non.
plus? Vous étiez sur scène?
Ouais, je faisais Cuisine et Dépendance et j'étais à Marseille.
Mais vous le dites avec un détachement, avec des regrets, avec une analyse froide et pragmatique. Tout ce que là, la manière dont vous analysez le succès, oui, c'est ça. C'est un fil, on tire dessus. Le fil, il peut se casser aussi. Et certains ont.
J'ai été extrêmement heureux de vivre la Palme d'Or. Ça m'a donné une confiance. Je me suis dit, ah putain, ce film, d'accord, ok. Donc j'ai fait 8 minutes et on me file une Palme d'Or. Et tout de suite, je me suis dit, je vais en faire plus long, quoi. Je vais faire plus long quand même.
Je vais faire
donc,
16.
Donc mon point de vue a plu. Le fameux point de vue. Ouais. Enfin, il a plu. Il a fonctionné en tout cas. Et donc, je me suis.
Jusqu'aux Oscars.
Mais après, je suis
ça
plus
calme.
Là.
Oui, non, mais c'est quand même.
Les Oscars, c'est virtuel.
Bah non.
Bah non, si on y va, c'est concret.
Oui. Ah oui, mais j'y ai pas été.
Il fallait y aller, monsieur.
Bah voilà.
Monsieur reste à Marseille.
Alors, justement, on avait une tournée de cuisine avec Jean-Pierre, avec Agnès, avec toute la bande, Zabou, Daroussin. Et je leur dis, je suis nommé aux Oscars. Sans déconner, mais arrête, tu vas pas te prendre un Oscar aussi, puis quoi encore, quoi. Pour le truc que t'as fait, là. Je fais, ouais. Bon.
Il en pensait quoi, Bakri, d'ailleurs, du coup?
Ouais, il trouvait ça sympa, ouais. Ouais, il trouvait ça sympa. Non, je crois, ouais. Mais il y a, comment dire, c'est comme si c'était, un peu surpayé quand même, cette affaire.
Tu vois, non, oui, mais il y en a plein qui sont récompensés à Cannes et puis qui n'ont pas l'Oscar.
Mais Sam, c'est de la fausse modestie. Ouais.
Non. Mais c'est pas,
vous l'avez avec vous dans votre sac à dos, donc peut-être que ça
vous aussi. Non, mais je suis très content, mais je l'ai pas vécu, donc je peux pas baratiner. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que la Palme d'Or, je l'ai vécu. Je peux raconter chaque soirée, chaque moment de la soirée, c'était super. Et les Oscars, voilà. Et c'est plus l'admiration, il est plus dans les yeux de mes interlocuteurs, c'est-à-dire vous, que moi, je peux pas vous dire, ah putain, les Oscars, qu'est-ce que j'ai kiffé, les Oscars. Non, j'y étais pas, quoi, les gars.
Je parle de la reconnaissance des professionnels, du métier, des Américains et compagnie.
Ouais, les Américains, voilà, ils m'ont appelé, et puis j'ai dit, d'accord, voyons, et puis après, ils m'ont laissé tomber comme une merde, donc je veux dire, les Américains, quoi.
Et ce problème de modestie extrême, vous en parlez, un psy?
J'en parle tous les soirs, justement, à cet inconnu.
Ça vous fait du bien?
Alexis, l'objet Oscar, on le reçoit en tant que tel un jour par la poste?
Exactement. Ah ouais. Puisqu'il ne le donne à personne d'autre qu'au Réal, et je l'ai reçu par la poste.
Au moins, c'est arrivé. Ça arrive pas toujours avec la poste. Hein. En 2012... Never mind, I'll find someone like you. Adèle, qui nous prépare un nouvel album.
Et en 2012, Sam, vous signez une tribune dénonçant le système des acteurs bankable, sans lesquels les films ne se font plus. Vous répondiez à un article de Vincent Maraval qui parlait des salaires exorbitants de certaines stars françaises, commençant par un cher Vincent Maraval, une prise de position remarquée.
Qui est un producteur, ça, ou distributeur. Maraval.
Wild Bunch.
C'est un producteur ou un distributeur?
C'est un distributeur, mais je pense que maintenant il fait aussi de la production.
D'accord.
Comment ça a été reçu? Et comment...
Je me souviens pas. J'ai souvent.
C'était sur le côté les acteurs sont trop payés. Il y avait ça aussi qui était dit par ce monsieur.
Mais c'est vrai. Mais je comprends pas pourquoi j'ai fait cette tribune, parce que je pense qu'il y a des acteurs qui sont trop payés. Et à l'inverse, il y en a tellement qui ne sont pas assez payés.
C'est ça. Donc il faut continuer la phrase. Il faut continuer la phrase. Ils sont trop payés pour ce qu'ils font ou pour ce qu'ils sont. Quelle est la suite de la phrase?
La suite de la phrase, c'est qu'un film se finance toujours, malheureusement, sur le fait que, en tête de casting, on va prendre des noms. Oui. Alors que moi, je pense que le succès d'un film, c'est pas l'addition de noms.
C'est l'histoire.
C'est une œuvre. Mmh. C'est une œuvre en tant que telle. C'est un tout. On voit bien qu'il y a des films où on connaît personne, des films étrangers où on ne connaît pas le casting et qui fonctionnent. Donc voilà. Moi, j'ai envie de dire, prenez vos risques. Mais d'ailleurs, ça y est, c'est fait. Ça a été réglé depuis. Je pense, je crois que les plus hauts salaires sont plafonnés. Mmh. Et par contre, derrière, c'est toujours la misère.
Vous dites l'acteur ouvrier, lui, gagne à peine le SMIC.
Les salaires des acteurs non-stars n'ont pas cessé de baisser. Messieurs, dames, je gagne la moitié, moi, là, maintenant, quand je tourne, que ce que je gagnais en 90, 95. Vous trouvez ça normal? Que plus on travaille dans sa vie, plus on est reconnu, plus on fait des choses, et moins on est payé. Voilà, c'est comme ça. Je vous entends plus.
Non, c'est vrai, parce que ça nous cloue le bec,
ça cloue le bec, à ce point-là, franchement, bien sûr. Moi, j'ai essayé pendant des années de tenir mépris journalier, j'ai dû sceller. Si
ça, ça tient à quoi ? Un agent, à sa façon de négocier ?
Non, ça tient aux productions qui sont, qui ont peut-être moins de financement.
Clairement.
Clairement, ouais, donc clairement. On a moins d'argent pour faire les films. Mais néanmoins, cette grille de salaire entre les vedettes pour faire les films et les autres est toujours injuste.
Sam Kerman, c'est une émission de divertissement. Là, vous nous mettez une ambiance pourrie.
Sam, vous êtes du côté des vedettes ?
Non, pas du tout. Nagui, vous invitez une non-vedette.
Non. On invite quelqu'un qu'on invite quelqu'un qu'on a envie d'inviter.
Merci, et je vous remercie, mais je suis un artisan. Je suis pas industriel. Je suis pas une vedette.
Mais cette pièce de théâtre s'est montée aussi sur votre nom.
Non, votre le nom de Schmitt, d'abord, dans le théâtre de Schmitt.
Mais alors, question bête. Votre nom est écrit en gros. Et aussi gros, voire plus que celui d'Éric Emmanuel Schmitt sur la fiche.
Non, il est. Regardez.
Ouais.
Mais alors, question très bête, Sam. On vous propose 10 fois plus pour faire un film que ce que vous touchez actuellement. Vous le refusez.
Je comprends pas. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que
Tom non plus ne comprend pas la question qui vient de poser.
Non, mais si.
Ce que je veux dire, c'est que j'espère me mêler de. Et en fait, je dis ça et c'est compliqué. Les échelles de salaire dans un film, c'est compliqué. Mais je trouve que les producteurs doivent et surtout les interprètes, quoi. Ils doivent faire gaffe. C'est pas normal de prendre 1 million et d'avoir les autres qui prennent 500 balles par jour, quoi.
C'est la même chose dans la chronique radio, c'est vrai.
Est-ce que vous aviez cette conscience?
Si on vous propose un gros cachet, si on vous propose un énorme cachet, vous êtes en mesure de dire au producteur, non, c'est beaucoup trop comparativement au petit rôle.
Pourquoi tu veux qu'il dise non sur un gros cachet? Il le prend.
C'était ma question.
Ça m'est jamais arrivé qu'on propose un gros cachet. D'accord. Je vous dis, je n'arrête pas d'être
un gros craché.
Pardon, excusez-moi.
Mais vous aviez cette conscience quand vous étiez entre guillemets que acteur, ou c'est depuis aussi que vous êtes réalisateur où vous rendez compte que c'est
bien sûr, vous avez raison. C'est quand j'ai commencé à faire mon premier film, et puis j'ai commencé à voir les enjeux de ceci, de cela. Entre parenthèses, Bakri là pour alors lui royal au bar toujours, et pas qu'avec moi, pas parce que j'étais son pote pour Kennedy et moi. Il a fait des efforts, mais à chaque fois, il demandait le c'est quoi le budget ?
Oui.
Je veux pas plus que ça. On lui proposait, non, je veux pas plus que ça, mais alors vous démerdez pour que les autres, ils aillent. Hein.
C'est ce que je dis.
C'est bien de le dire. On va revenir à cette pièce dont le nom de Sam Kerman est écrit aussi gros que celui de l'auteur sur l'affiche, Le Visiteur au théâtre, Rive Gauche. On va parler de la philosophie et de la croyance avec Elsa Godard. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de venir à ce micro, vous le connaissez. Vous êtes philosophe et psychanalyste, directeur de recherche à Paris 7, et vous avez signé Freud à la plage, aux éditions Duno, et votre dernier livre s'appelle En finir avec la culpabilisation sociale, aux éditions Albin Michel. Pour en revenir à la croyance et à la psychanalyse, est-ce qu'on peut être philosophe ou psychanalyste et croire en Dieu, ou à un moment où ces métiers ne s'accordent pas avec la croyance ?
En une phrase, la réponse.
Je vais essayer déjà de répondre. Oui, je suppose que oui. Je pense qu'on peut dissocier les choses, mais c'est peu fréquent en effet. Ça se contredit d'emblée.
Ah, souvent les
je parle des psychanalystes plus que des philosophes.
C'est en étant éduqué chez les cathos que mon prof de philo m'a rendu agnostique, c'est-à-dire que c'est le cours à la fin, on sort du cours, on dit OK, bon bah laisse tomber quoi, il y a plus rien qui tient.
On peut toujours se maintenir au pari de Pascal et faire le pari d'une hypothèse qui est plutôt vous parliez du sens tout à l'heure de l'existence, qui est plutôt rassurante, mais ça reste une problématique, me semble-t-il, très très personnelle, quelles que soient les croyances. Récemment, je travaillais ça fait des années que je côtoie cet auteur, et j'y suis revenue, qui s'appelait Viktor Frankl, qui était très croyant, qui a écrit un livre de philosophie, donc psychiatre, déporté à Auschwitz, et qui a créé la logothérapie, une thérapie par le sens, psychiatre d'origine et philosophe. Il a écrit une thèse de philo qui s'appelle « Le Dieu inconscient ». Donc il mêlait à la fois des problématiques existentielles, névrotiques, pathologiques, thérapeutiques, et en même temps une croyance en Dieu. Donc c'est conciliable.
Est-ce que Freud croyait, lui, en Dieu ?
Freud ne croyait pas en Dieu. Il était très, vous l'avez dit tout à l'heure très justement, et son Moïse, dernier ouvrage qui a fait polémique à la fin de sa vie, dernière publication, excusez-moi, est un plaidoyer.
Vous apportez un verre d'eau, ce sera plus
anti, simple. Anti-Dieu. Et en fait, c'est bien pire que ça, puisqu'il donne une raison à l'existence de Dieu. Je vous rappelle juste un peu le contexte sans paraître trop barbante, mais on est quand même à la fin du 19e siècle, enfin début 20e. Ouais. On est en plein dans l'héritage du nihilisme nietzschéen, où rien n'existe, où Dieu est mort dans le Gai Savoir. Freud arrive et il va rajouter une couche à cette problématique sur Dieu, en disant effectivement, en fait, c'est une problématique de société, et Dieu représente le Père, et il faut tuer le Père. Voilà.
Alors, comment Freud est devenu célèbre? Parce qu'on parle de lui comme une espèce d'évidence. Il y a quelque chose de particulier. Prenez une gorgée d'eau.
Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de radio.
Elle est fraîche. Et pourtant, vous avez une voix délicieuse. Freud est connu sur des théories, sur des.
Freud
sur des
était livres. Connu avant de développer la psychanalyse, puisque c'était un neurologue absolument brillant. Et même de nombreux chercheurs, de nombreux scientifiques venaient le voir de l'étranger pour pouvoir écouter ses théories. On lui a proposé une chaire à l'université. Ça lui semblait une tâche absolument insurmontable. Il la refuse, mais il avait une vocation. S'il s'agit de parler de Freud, et je suis très heureuse ici, je me permets une petite précision, c'est que la psychanalyse aujourd'hui est complètement, depuis toujours, elle est dégommée, elle est anéantie, Freud bashing. Mais dans un contexte de où les neurosciences prennent beaucoup de pouvoir, où on assiste à une biologisation du sujet, parler comme on le fait aujourd'hui dans cette émission de Freud avec autant d'engouement, de passion, remettre le visiteur à l'honneur, je trouve que ça permet de donner un autre aspect du sujet humain qui est très important, et notamment le primat de l'inconscient. Voilà. Et ça contredit toutes les théories neuroscientifiques qu'on a, enfin, qui voudraient réduire le sujet à sa biologie ou à sa physiologie. Et je crois que c'est très important de préserver ce mystère.
Ah oui, vous êtes totalement fan de Freud, en fait.
Alors, je ne suis pas totalement fan de Freud.
Non, mais d'autant qu'il est décrié aussi
Et d'autant que je suis critique dans ce livre. Je ne suis pas du tout dans une admiration béate.
Oui. Ouais, il a des casseroles?
Bah, bien sûr.
Il y en a plein.
Bien sûr, sur plein de théories qui mettent plein de parties de la
Freud
société
Soukhok,
au banc.
Par exemple.
Ouais.
Fred Soukhok. Parce que à un moment donné, il pensait qu'on pouvait même guérir l'alcoolisme en prenant de la coke, ce qui est pas.
Ça, j'ai cru longtemps, ça.
toi, tu guéris de l'alcoolisme par l'alcool, c'est autre chose.
Alors, c'est drôle parce que dans la pièce, il dit qu'il prend, il dit, je ne veux pas de cette drogue.
Exact.
Mais si c'est de la coke, pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui a le.
Qui a le pouvoir.
Oui, mais non. Au contraire, non.
Mais c'est très fort quand même, parce qu'on oublie qu'il était quand même addict, mais il est arrivé à se désintoxiquer tout seul aussi par cette force de la volonté. Je suis pas totalement fan de Freud, c'est pas ça. Mais dans le cadre de mes recherches, notamment, j'ai quand même Freud est un acte inaugural, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut pas oublier qu'on sort de Descartes, où on a le sentiment, vous parliez de libre arbitre, mais quel bonheur de parler de ça ici, où on a le sentiment qu'effectivement, on est conscient de soi-même, on est libre, on peut tout, on a ce pouvoir. Ça, c'est René, hein, ce bon vieux Descartes. Et puis, y a un petit passage par Husserl que je vais mettre entre parenthèses. Et puis, alors, évidemment, Marx et Freud arrivent. L'un parle d'un inconscient social et l'autre d'un inconscient psychique. Et le moi n'est plus le maître dans sa propre demeure, vous imaginez? Ça veut dire qu'en fait, concrètement parlant, on croit qu'on est libre d'agir et qu'on a cette toute puissance en soi, mais en fait, on ignore les causes qui nous déterminent, comme l'avait suggéré déjà Spinoza à l'époque. Mais ça, c'est extraordinaire, parce que c'est quand même l'apprentissage d'une terrible humilité.
Les idées reçues qu'on a sur Freud, c'est autour de la sexualité, généralement?
Alors, il y en a beaucoup. Ben, encore une fois, j'ai pas un temps indéfini, donc je vais me permettre de dire une chose très importante. Si aujourd'hui les paroles se délient, telles que MeToo, qu'on ose dire les choses, et on a besoin de dire, et il faut dire...
Ça vient de Freud.
C'est à lui qu'on le doit. Alors il y a beaucoup d'erreurs chez Freud, on l'a dit, et j'ose même pas parler de la sexualité féminine, c'est un drame.
Et l'autisme ?
Il y a eu la problématique sur l'autisme, il y en a eu des quantités, mais il ne faut pas oublier que c'est un pionnier. Et la grande passion de Freud, c'est la science.
Alors, pour revenir maintenant au vécu et à ce qui est dans ce qu'on ressent dans la pièce, c'est-à-dire va-t-il quitter ou pas l'Autriche, il s'est exilé, il est passé par la France, l'Angleterre.
Oui, avec Marie Bonaparte, qui l'a aidé à s'enfuir, absolument.
Mmh. Et il est mort à Londres, à Paris.
Marisfield Garden, c'est dit dans la pièce, non, il est effectivement là-bas, oui.
Ouais. Oui, bien sûr. Et vous parliez de sa fille, mais il faut citer Anna, parce qu'Anna Freud est une grande psychanalyste pour enfants. Elle a beaucoup accompagné son père. Et alors, c'est intéressant, parce que quand on lit... Je crois pas qu'on ait encore des choses à découvrir sur Freud. Beaucoup de biographes, alors il y a une biographie qui est quand même, on va pas dire romancée, mais qui est pas parfaitement juste, peut-être au sens historique du terme, qui est celle d'Ernest Jones en 4 volumes. Mais c'est délicieux à lire parce qu'on appréhende un Freud dans une personnalité qu'on a du mal à saisir, parce qu'il est extrêmement rationnel. Mais il a cette passion qui est une passion pour la psyché, pour la psyché humaine et pour la nature humaine. Ça va de l'anthropologie freudienne à guérir. Il y a une vocation derrière ça. Et Anna Freud, elle a vraiment emboîté le pas de son père. Et alors, c'était très beau, parce qu'à la fin de sa vie, il faut quand même pas oublier que Freud est mort en demande d'euthanasie, quand même, à l'époque. Et donc, dans les derniers moments de sa vie, c'est Anna qui s'est beaucoup occupée de son père. Et ils avaient une complicité de manière indicible. Ils se comprenaient par le regard, parce que tous les deux étaient des caractères très introvertis. Voilà, pas... Il débordait pas d'affectivité, pourrait-on dire.
Elsa Godard, philosophe, psychanalyste, qui signe donc Freud à la plage aux éditions Duno, et puis plus récemment, Finir avec la culpabilisation sociale aux éditions Albin Michel. Merci Elsa d'avoir été avec nous. Tom Villa a ses prix, et c'est aujourd'hui. Ça va Tom ?
Ça va et toi ?
Alors, qui sont les nommés cette semaine ?
Oui. Dans la catégorie du truc le plus con de la semaine, les nommés sont...
Si j'étais président de la République.
Voilà, c'est une autre version.
Jamais plus un enfant n'aurait.
Ouais, pour country, on est au Buffalo Grill. Premier nommé, un jeune homme de 19 ans souhaitant entrer dans un hôpital à Marseille a présenté le QR code du président de la République avant d'être interpellé. Bon, voilà, déjà, des fois, on cherche des vannes et pff, les mecs les font tout seuls. Et le gagnant est...
Déjà ?
Ah bah lui, c'est le champion, je ne vois pas mieux.
Ouais,
non, attendez, si, attendez. C'est il y a une entreprise française qui a envoyé un terminal de paiement et un bras articulé avec une carte de crédit pour faire le premier paiement sans contact dans l'espace. Sans déconner, qui ça concerne à part Thomas Pesquet ? Je veux dire, envoyer dans l'espace une machine à carte pour faire un paiement sans contact, est-ce qu'on peut arrêter d'envoyer des merdes dans l'espace ? Parce qu'après Elon Musk qui a envoyé une bagnole,
c'est une poubelle, ouais.
Là on envoie un TPE avec un bras articulé, une carte de crédit. On parle juste titre de la pollution des océans, des forêts, ça c'est super. Mais est-ce qu'on pourrait penser à l'espace ? Parce que quand le voyage spatial touristique sera vraiment opérationnel, moi j'ai aucune envie qu'on dise, tu sais comment il est mort Nagui ? Écoute, il était dans sa navette et là il s'est pris une pluie de Lego sur la gueule. Non mais en plus, imaginez qu'il y a des extraterrestres qui viennent nous voir. Les mecs, ils s'arrêtent à la stratosphère, ils tombent sur une carte de crédit et une bagnole qui flotte, manque plus que Joule envoie son CD et un T-Max, on va passer pour des beaufs. Alors là, ils ont envoyé le matos pour faire un paiement sans contact à 37 km d'altitude. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres urgences? Non, je parle même pas de la fin dans le monde ou des vaccins. Non, déjà d'urgence bancaire. Déjà, les gars, régler le problème de on attend 3 minutes avant qu'un paiement soit accepté ou que le marchand soit obligé d'aller reposer sa machine sur le sabot parce qu'il capte pas très bien. En plus, quitte à payer en carte bleue dans l'espace, tu fais un paiement qui a de la gueule. Là, ils ont fait tout ça, pour payer un hôtel. Alors, je vais peut-être mal le prononcer, à Blankenberge, en Belgique. Pardon les Belges. Et je sais que je risque de mettre les 3/4 des employés de Radio France à dos,
c'est
mais
ça,
t'envoies un bras articulé dans l'espace avec un TPE pour faire un coup de com. Je sais pas, envoie-moi du rêve. Sur moi, le Martinez à Cannes, le Ritz à Paris, l'hôtel du Palais à Biarritz. Là, je sais que c'est que des hôtels en France, mais c'est une boîte française. C'est quoi le message quand t'es une société française qui fait le premier paiement dans l'espace pour un hôtel en Belgique? Pour montrer que fiscalement, où que tu sois, il y aura peut-être toujours moyen de magouiller. Alors attendez, en plus, c'est un paiement de 45 euros. J'ai vérifié, les chambres, elles sont à 120 euros. Donc là, envoyer ça dans l'espace pour juste payer le mini-bar, je vois pas l'intérêt. Franchement, j'ai toujours trouvé ceux qui disaient que c'était mieux avant, c'était des vieux cons, mais là, ouais, c'était mieux avant. Et d'ailleurs, là, les complotistes, ils disent rien. Les complotistes, ils doutent que Neil Armstrong a posé un pied sur la Lune en 69. Ils pensent qu'il était dans un studio à Hollywood. 10% des Français pensent que la Terre est plate, alors que je pense qu'on a quand même 2-3 preuves. Mais envoyer une machine à carte avec un bras pour faire un paiement dans l'espace, personne ne le remet en question. D'accord, si ça se trouve, ils étaient sur fond vert à la plaine Saint-Denis. Alors officiellement, l'idée, c'était d'envoyer un signal fort au secteur du tourisme touché par la crise sanitaire. Si le signal est parti carrément dans l'espace, peut-être que vous l'avez envoyé trop fort, si je peux me permettre. Alors, il faut pas oublier que cette semaine, on a envoyé dans l'espace aussi William Shatner, alias le capitaine Kirk de Star Trek, âgé de 90 ans.
Le pauvre.
Heureusement qu'il est redescendu sain et sauf, parce que t'imagines. Tu sais comment il est mort, le capitaine Kirk? Bah, il s'est pris une carte électron dans la gueule. Allez, bonne journée.
Merci, Tom Villa.
Et Tom, tu seras demain samedi à Mesquer, à côté de Saint-Nazaire.
Oui.
Et tous les lundis. Et tous les lundis à Paris, à la Nouvelle-Ève.
Oui, exactement.
C'est bien.
De quoi?
Ça, c'est bien, mais il faut qu'on fasse un planning hein, pour aller voir tout le monde.
Parce que ouais,
c'est,
ça va être.
C'est chargé. Non, mais j'ai hâte de vous voir.
Tous à Mesquer.
Pardon?
Tous à Mesquer.
Toi, t'es où ce week-end?
Moi, ce soir à Ruffec.
En Charente, alors. Charente. Et tu le dis pas comme ça.
Un peu de respect. Ouais. De quoi parles-tu aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous parler du Costa Rica, le pays le plus écolo du monde. Yannick Jadot ne bronze plus que là-bas. Il y va en pirogue. Bon, 17 mois de voyage, mais...
C'est la bande originale avec Lila Cadeau-Boudoni, Morgane, Gadignan, Tom,
bonjour,
Lila, Alexis Rossignol, Tanguy Cassureau,
bonjour,
Daniel Morin, et bonjour. Notre invité Sam Carman.
Oui, Sam.
Au théâtre Rive Gauche, Sam Carman, aux côtés de Franck Desmed.
Vous pouvez pas louper sur l'affiche, c'est écrit en énorme, Sam Carman.
Katia Danti, Maxime de Toledo, mise en scène par Johanna Boyer, tout cela écrit, produit, accueilli par Éric-Emmanuel Schmitt, le visiteur, avec c'est pas un cambrioleur, ça pourrait être un cambrioleur, mais on comprend rapidement que il est incroyable d'avoir une discussion avec Dieu. Généralement, ce genre de discussion, c'est quand on est au bout du rouleau, quoi. C'est quand on est au bout du tunnel, on voit pas vraiment la lumière blanche.
Et c'est un songe.
On se met à parler à Dieu.
Ou c'est un rêve.
Ouais.
Ou c'est un rêve. Mais aussi dans ses rêves, on essaye d'aller au bout hein, du chemin quand même, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte.
Comment la première lecture que vous avez faite du visiteur, quand on se retrouve à porter un personnage comme Freud? On se documente, on lit, on se demande comment on va le jouer, on voit que la mécanique du jeu où on extrapole un tout petit peu en spiritualité.
Alors, il y a tout ça. D'abord, j'avais déjà joué une pièce d'Éric-Emmanuel Schmitt, pardon, Éric-Emmanuel Schmitt, c'est compliqué ton nom à dire. Mais
appelez-le Éric.
Éric. Il y a quelques années, j'avais joué au Théâtre Rive Gauche, j'avais joué Petit Crime Conjugaux. Et j'avais découvert vraiment, non pas que je la connaissais pas son écriture, mais son écriture théâtrale comme interprète. Et je me suis... J'avais eu beaucoup de plaisir aussi à la jouer. J'aime bien sa langue. J'aime beaucoup sa langue. Elle est construite, elle est charpentée. C'est pas passe-moi le sel, mais justement, c'est une langue sur laquelle on peut s'appuyer.
Et alors, parce que entre ce que l'on lit et ce que l'on doit dire, il y a un effort à faire généralement. Ça peut arriver en tout cas.
L'incarnation, moi j'avais envie de tout dans le visiteur, sauf d'une pièce intellectuelle ou une pièce mentale. Il fallait pour moi l'incarner. Et c'est d'ailleurs la direction avec Johanna Boyer, la metteur en scène. Ça a été très clair dès le début, parce que quand on s'embarque dans une pièce, on discute aussi avec le metteur en scène pour savoir un petit peu où il va aller, quoi. Ouais. Bah oui. Et donc elle avait une vision très qui me convenait tout à fait par rapport à cette incarnation totale du temps présent, du moment. Et donc cette langue, comment être extrêmement dans la vérité avec une langue extrêmement charpentée, extrêmement écrite. Eh bien, c'est un plaisir d'interprète en ce qui me concerne. J'ai un peu ce plaisir quand on joue des grands textes comme Molière, comme Hugo, on se colte à c'est un texte. Colter à Schmitt, c'est se colter à un texte.
Y compris du Feydeau, du Guitry, y compris les comédies de boulevard, quoi.
Oui, mais parce que c'est du boulevard de l'époque. Parce qu'il y a des boulevards d'aujourd'hui.
Ah, très mal fréquenté les boulevards d'aujourd'hui, alors que les boulevards d'époque, c'est autre chose. Pour en revenir à ce visiteur et, donc, pardon, et la mise en scène, pardon.
Et donc, j'ai lu, la seule chose que j'ai lu de Freud, parce que c'est les échanges, les écrits, les lettres, les correspondances qu'il avait fait avec Stefan Zweig. C'était très intéressant.
Pour parler de la mise en scène de Johanna Boyer, je voulais aussi évoquer ce décor. On est dans un huis clos avec plusieurs entrées possibles dans cette pièce où on ne sait pas très bien si c'est une porte, une fenêtre, un couloir, un escalier, si ça va dans la cage de l'immeuble ou si c'est une annexe ou une entrée de service. Enfin bref, il y a des entrées et des sorties qui sont...
qui sont plus des apparitions.
Qui sont surprenantes, en tout cas, derrière des rideaux. Mais la pièce en question, c'est-à-dire le divan de Freud et son bureau, avec des bibelots, des têtes de mort dissimulées un peu partout dans son bureau de ce psychanalyste qui arrive à la fin de sa vie, quoi. Il est un peu au bout du rouleau, épuisé peut-être par le poids des années, mais surtout par les horreurs de la guerre. Et on vient rajouter à ça l'enlèvement de sa fille par la Gestapo.
Voilà. Et donc c'est un choc total pour lui, et ce choc va provoquer cette rencontre. Alors, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que cette rencontre a lieu au moment où il a ce choc? Ou est-ce que c'est ce choc mental qui lui fait projeter cette rencontre?
Est-ce que c'est que dans sa tête ou dans la réalité?
Voilà.
Voilà. Dieu analyse Freud, ou Freud analyse Dieu, ça s'appelle le visiteur. En tous les cas, ça donne à réfléchir.
Oui.
Et c'est ça qui est agréable. Et encore une fois, c'est formidablement bien interprété. Voici Tanguy Pastureau.
C'est pas que je suis pas bien avec vous, mais là, je préférais être au Costa Rica.
Je comprends.
Ah, le Costa Rica, ça a l'air magnifique, plein de nature. On dirait une sorte d'immense Center Park. Sans ton oncle Crado en train de gratter ses verrues plantaires au fond de la piscine à vagues. Le Costa Rica, c'est une biodiversité préservée. Il y a des bêtes partout. Le matin, dans votre lit, vous retrouvez trois tortues marines et un tapir. À qui vous dites, je comprends mieux, c'est cette petite trompe qui m'a donné tant de plaisir cette nuit. Parfois, dans votre lit, vous retrouvez un dauphin en train de pioncer. Parce qu'au Costa Rica, les animaux ont tellement la patate qu'un dauphin peut parcourir 7 km de national depuis la plage, juste en sautillant sur sa queue. Là-bas, il y a des dauphins qui sont vigiles à Auchan. Vous piquez un produit, là, il vous file un grand coup de nageoire. Vous chialez en disant, moi qui t'avais tant aimé dans le Grand Bleu. Le Costa Rica, c'est le pays le plus écolo du monde. Vous partez là-bas avec Hugo Clément, il écrase sa caméra avec le pied et vous dit, je dénonce quoi, moi, pour mon émission sur France 5, il n'y a pas un papier gras par terre dans ce pays à la con. Oui, le Costa Rica, c'est comme la Suisse, mais avec des gens bronzés. Et au Costa Rica, les chercheurs ont détecté une zone, la péninsule de Nicoya, où les gens ont une longévité incroyable. Alors pour les trouver, ils sont partis dans la jungle, ont crié « Grille des programmes de France 3, Cyril Ferraud, Damien Thévenot, Télématin !» Et là, des dizaines de vieux sont sortis des fourrés. Donc l'AFP est parti rencontrer ces seniors, ils ont fait un article. Alors on a Don Sato, 94 ans, qui dit le reportage « Coupe du bois dès 7h du matin et enquille avec une balade de 4 km chaque jour. » Parfois, il croise un dauphin sur un sentier, hein, il le check en lui disant « Tape-moi 5 !» Le dauphin répond « J'ai qu'une nageoire, c'est le spéciste. » Enfin, alors Don Sato vit dans un village en pleine nature, loin de tout stress, puisqu'Amel Bent ne passe pas en tournée dans le coin, et dit se nourrir de riz, de haricots, de fruits et d'un peu de viande, hein, parce que parfois on retrouve un dauphin mort à 5 mornes à l'intérieur des terres, donc on le bouffe. Alors le secret de la longévité serait donc une vie paisible et une alimentation saine. Après vivre 100 ans en bouffant du riz, bon, c'est un enfer. Hein, le seul qui a l'air content avec ça, c'est Uncle Ben, qu'on voit en train de sourire sur les paquets. Donc l'AFP a aussi rencontré Clémentina, 91 ans, et son mari Augustin, 100 ans, tous les deux sont en pleine forme. Je pense que l'an prochain, ils vont commencer le kung-fu. Et Clémentine a dit, à la campagne, on vit paisiblement et il n'y a pas de danger, donc pas de stress. On en revient toujours à ça. En fait, pour vivre vieux, il faut être détendu. Je pense qu'on n'est pas prêt de perdre Michel Houellebecq. Hein, en 2050, il sera toujours en train de se décomposer. Yannick Jadot dira, voyez, il met plus de temps à se biodégrader qu'un mégot de clope. Hein, mais ça, ça veut dire que nous, en ville, on perd des années de vie. Enfin, prenez Paris, cette ZAD infâme où on fait une terrasse avec 4 palettes. Ça hurle, ça klaxonne, il y a des rats qui font 1m85 de haut, la taille d'Olivier Mine, qui d'ailleurs dans son jeu s'est fait prendre sa place à un moment par un rat. Hein, si Denis Bonnec l'a trouvé dans sa loge avec une meule de 7 kilos d'emmental, elle s'est dit ça ne peut pas être Olivier, il se nourrit uniquement de sandwich à la créatine. Puis le rat a crié vive Anne Hidalgo, notre reine, et si Denis Bonnec s'est dit ça ne peut pas être Olivier, il n'y a pas de gens de gauche en télé, hein, à part Gérard Miller, mais enfin il était exfiltré. Hein, nous à Paris, à cause du stress, chaque année vécue, on en perd 4. L'espérance de vie quand on cherche à se déplacer en voiture à Paris est descendue à 26 ans. Hein, Macron, si gérait le pays depuis la Bourboule, mais aujourd'hui il sera encore frais. Prenez Philippe Pétain, il s'est installé à Vichy, la bonne idée, il est mort qu'à 95 ans. Et Clémentina au Costa Rica dit aussi, on a toujours mangé ce qu'on fait pousser. Mmh. Autre secret de longévité. Mais là aussi, pour les citadins, c'est foutu. À titre personnel, j'ai fait pousser un bambou. Je me vois mal le faire en Pokéball, quoi. Hein. Vous boulottez du bambou, très vite, vos voisins contactent le zoo de Beauval et vous vous retrouvez à nettoyer les fesses de petites neiges et fleurs de coton, hein, les bébés pandas, parce qu'on vous a mis à vivre avec eux. Alors, le seul avantage, bon, c'est qu'une fois tous les 2 ans, Brigitte Macron vient voir comment vous allez et elle vous caresse. Voilà, hein, je rappelle que c'est nous qui payons leur train de vie avec nos impôts. Donc, moi, si soit Emmanuel, soit Brigitte vient me tripoter, je trouverais ça normal. Hein, voilà. Et dernier témoin, l'AFP a croisé Pachito, qui vit aussi au Costa Rica et qui a 104 ans, et à 104 ans, il monte à cheval. Voilà, moi j'en ai 57 de moins, même un tour en poney, je tente pas, je me dis si je tombe du haut de la créature odorante, je vais me froisser un air dans le dos, et Pachito, non, il fait du cheval. C'est l'effet Costa Rica. À mon avis, Edgar Morin, qui chez nous a 100 ans, ne le dit pas, mais il vit au Costa Rica. Il fait semblant de tweeter depuis Paris, il écrit, là, j'en peux plus de cette pluie, alors qu'il est en slip affalé au milieu du village de San Fernando de las Playas del Sol de la Tortilla. Donc, résumé, pour vivre 100 ans, il faut ne pas avoir de stress,
manger sainement, couper du bois, faire du cheval. En fait, il faudrait voir combien de temps a vécu Charles Ingalls, parce qu'il correspond quand même pas mal à la description. En fait, ce n'est pas le Costa Rica qui fait qu'on vit mieux. Je rappelle qu'à tout moment là-bas, vous pouvez vous faire bifler par un varan, hein, ce qui vous emporte la moitié de la face. Non, c'est le mode de vie de ces villageois du Costa Rica qui les préserve. Alors après, il faut aimer l'ennui. Moi, j'aime autant boire des bières et bouffer des frites, une vie de ch'ti, hein, et tenir 66 ans, l'espérance de vie des ch'tis. Ça dure moins longtemps, mais c'est plus fun. Donc rock'n'roll et longue vie quand même aux gens du Costa Rica.
Merci Tanguy Basson.
Et Tanguy, tu seras à Ruffec.
À Ruffec ce soir.
Voilà, c'est pas le Costa Rica.
Non, ah non. Mais il y a des plans.
Costa Rica, voilà. Pays sans armée.
C'est vrai.
Ils ont zéro armée au Costa Rica.
Est-ce qu'ils ont conclu un petit accord avec les États-Unis?
Il y a des barons.
Il y a un accord de
Il y a zéro armée, il y a zéro frais médicaux. Les soins sont gratuits. Non, mais voilà.
Il n'y a pas de médicaments, on est comment?
J'adore ce pays. Pardon?
Fiscalement, on est comment?
Je sais pas.
Ils vous prennent tout et vous vivez dans les fougères tout nus.
Voilà, c'est pas mal.
Mais toute l'énergie, tout le chauffage, toute l'énergie prise par les volcans, l'énergie marémotrice, les éoliennes.
Ah non, c'est vrai. Il n'y a jamais de manif dans ce pays.
Ça c'est du regret, c'est ça.
Si, il y a des manifs de deux types qui ont des SUV et qui disent laissez-nous circuler.
Parlons de la culture au théâtre Rive Gauche, c'est le Visiteur jusqu'au 17 décembre. Mais Leïla Kadourouliadi,
oui.
D'autres choses à raconter.
On va parler d'Eminem qui vient de commencer un nouvel emploi. Quel est-il?
Réalisateur.
Non.
Producteur.
Barbier.
Non.
Barman.
C'est pas loin.
Restaurateur.
Ouais.
Ah non,
il a créé une...
Non, c'est bon.
C'est ça.
J'ai gagné.
En fait, c'est lié à la restauration. Ah. Il a créé un resto à Détroit qu'il vient d'ouvrir et il fait même le serveur dans ce resto qui s'appelle...
Pas tous les jours.
Le resto s'appelle Mom Spaghetti. Ah. Donc, vous pouvez vous faire servir des pâtes par Eminem à Détroit.
C'est pas parce qu'il a racheté un resto qui était dans un feuilleton de son enfance ou un truc comme ça, c'est pas lui?
Non, c'était pas lui. Lui, c'est en référence aux paroles de son tube Lose Yourself de la BO 8 Mile.
C'est South Park, oui,
ça pousse le truc un peu.
Il a décidé comme ça de se lancer. Alors, de temps en temps, bien sûr, il va servir. Sam Carman, il y aurait un autre métier qui vous ferait envie? Vous avez investi dans un autre domaine, il y a quelque chose comme ça en parallèle qui pourrait vous exciter.
Petite franchise, ouais, voilà,
effectivement, j'ai découvert très tardivement la beauté des fonds sous-marins. J'ai eu de la chance parce que entre le moment où j'ai découvert la beauté des fonds sous-marins et aujourd'hui, ils y sont plus. Donc franchement, j'ai eu une fenêtre de tir.
Pourquoi vous avez racheté l'océan Pacifique?
Non, parce qu'il l'a détruit. Voilà.
Non, mais j'ai une passion sur la plongée sous-marine et les fonds
marins. Mais comme métier. Si vous deviez avoir
un futur biologiste marin.
Chercheur, absolument. Autre question. Les ventes d'art contemporain ont atteint un record avec plus de 2 milliards de dollars sur 2020-2021. C'est plus 117%, c'est énorme. Grâce à quel type d'œuvre, d'après vous?
Street art.
Non, ce ne sont pas des artistes connus non plus. Vous en avez entendu parler nécessairement.
Des sculptures?
Non.
Les baskets?
Non plus.
Street art?
Non, pas street art.
Bah, j'ai dit street art.
C'est pas des œuvres.
Ne vous fâchez pas.
Des œuvres virtuelles.
Absolument, Tanguy. Les NFT.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Vous savez, ces certificats d'authenticité associés à un objet virtuel, une image, une vidéo, un tweet que vous pouvez acheter, qui ont révolutionné le marché de l'art mondial, dopé par l'art contemporain. C'est considérable. Alors, je sais que ça n'inspire pas absolument tout le monde.
C'est pas considérable du tout.
Bah, sauf que c'est un très bon investissement, vraisemblablement.
Il y a de l'art numérique, hein, de l'art numérique.
L'art numérique, ça, en effet. Alors, de l'art ou du cochon pour vous, Sam Carman?
On n'investit pas. Pourquoi investir là-dedans et pas dans des trucs au lieu de virtuels mais vraiment réels comme par exemple en Afrique des pompes pour aller chercher l'eau du solaire, enfin tu vois des
ça
trucs
oui,
là, s'ils savent pas quoi foutre de leur pognon, moi j'ai des idées.
Non, mais dans le monde de l'art alors à ce compte-là, acheter une toile c'est aussi ridicule. Et autant plutôt investir son argent dans une pompe.
Moi j'achète les toiles de mes copains artiste.
Ah, donc vous achetez de l'art.
Oui, mais ils sont pas connus. Mais voilà, c'est...
On peut offrir une toile à un village africain aussi.
The Artist, c'est ce soir en direct et c'est la finale avec 6 artistes qui vont se produire. Joseph Kamel, par exemple.
J'y crois pas, lui.
Nicolas. Rookine. Filé au ciel, tombé en enfer. C'est pas que ça à faire. Je rappelle que ce sont des auteurs, compositeurs, interprètes.
Nous sommes des étoiles filantes.
Gabriel Joseph. C'est déjà des tubes pour nous, hein. C'est-à-dire qu'on les a tellement dit. Cynthia, sois belle et tais-toi. Ah ouais, sur mon atomisé. J'étais classe d'ailleurs, j'ai passé des garçons d'abord et des filles à la fin.
T'as gardé le meilleur pour la fin.
Et petite gueule.
Moi, je crois au fait, je crois même qu'on en rencontre plusieurs. Je crois que notre route, c'est une piste de dés. Je crois que l'illusion, elle est ailleurs.
Moi, je pense, c'est le tien.
Je crois qu'on peut même tout ça.
La finale ce soir. Ouais, tous les jours, tu m'as dit ça, c'est vrai.
Ouais, c'est le tien.
La finale ce soir, 22h40 en direct. Et tous les jours de la semaine, pendant 25 numéros, il y a eu ces masterclass que Leïla, tu as présenté sur le canal 14 de la TNT. Des auteurs, compositeurs, interprètes viennent faire des masterclass à des auteurs, compositeurs, interprètes.
Et hier, c'était Yael Naïm qui était avec nous. Et on parlait tout à l'heure de spiritualité. Yael Naïm, elle a emballé absolument tous les artistes présents. Elle a parlé
elle est connue pour ça.
Elle est lumineuse, hein, Yael Naïm. Si vous avez eu la chance de la rencontrer, elle est... T'es méchant. Alors on va plutôt l'écouter, comme ça, ça va éviter Daniel Morin de dire des conneries. Ça va nous faire des vacances.
Il est encore là, t'as pas gagné, moi.
Eh ben, je dis rien, écoutez-la.
Je pense que c'est comme une graine, en fait. Il faut commencer par nourrir la graine intérieure, le pourquoi on fait ça, quelles sont nos motivations, qu'est-ce qu'on a envie de dire, par une forme de sincérité. Et qu'à partir de ce truc-là, il y a des réponses qui commencent à venir et c'est, ça magnétise autour les bonnes personnes qui croient au même, voilà, à la même démarche. Et quand on essaye de choper le truc à l'envers, c'est-à-dire de correspondre à une attente extérieure, on rentre dans un fantasme, en fait, dans le fantasme de l'autre.
Trahi, oui, c'est ça.
Je pense qu'on peut, que c'est un trou sans fin, en fait.
Oui, Yael Naïm parlait de son premier album pour une grande major où elle a essayé de cocher les cases qu'on lui demandait de cocher et finalement, ça n'a pas marché et elle s'est dit, bah, tant qu'à faire, maintenant, je vais faire des albums qui me plaisent. Ça marche, tant mieux. Mais si ça ne marche pas, cet échec, en tout cas, correspond à des chansons que j'ai aimées et que j'ai vraiment voulu faire entendre
en public. C'est bien qu'elle parle de magnétisme, mais elle est passée par un petit label pour se retrouver musique de la pub mondiale d'Apple.
C'est ça, d'Apple. Comme quoi, ce chemin-là, finalement, bah, il faut aussi oser emprunter.
Le chemin de la sincérité.
Ouais, elle parle d'être un peu centrée, d'être en résonance avec soi. C'est un peu la quête d'une vie, mais pour elle, c'est co-substantiel à la création artistique.
Les fondations, c'est toujours soi avec son bien-être mental et sa conviction artistique. Et autour de ça, après, on peut commencer à construire quelque chose mais qui est stable et qui est dans à longue durée aussi, qui va tenir. Pour moi, c'était important de pouvoir en vivre plus ou moins de ma musique, avoir du succès plus ou moins, mais c'était pas le plus important.
Oui.
Et de pouvoir passer ma vie entière à faire la musique que j'aime. Donc, tout le monde n'a pas forcément envie de ça. Il y a des gens qui sont motivés par autre chose. Donc ça correspondait à ma motivation.
Ces explications, Sam Karman, d'une auteure, compositrice, interprète, vont aussi à un réalisateur, à un auteur que vous êtes. C'est-à-dire chercher à répondre à un besoin du marché.
Mais... Je peux même pas comprendre quand on questionne parfois des jeunes gens, mais pourquoi tu veux t'engager pour être connu. Voilà, non, il faut que ça réponde à un désir vital de proposer des choses. Après le succès, la connaissance, c'est autre chose.
Et Yael Naïm, j'ai juste envie qu'on l'entende chanter.
I miss my friends and my guitar. And knowing I can travel far, but now I'm only standing here, completely paralyzed with fear.
Ah, ça donne chair de poule.
Tout ce que vous dites résonne tellement fort que je suis complètement bouleversée.
C'est une petite gueule en larmes.
Excusez-moi.
C'est le manque de sommeil.
Ça m'est jamais arrivé de ma vie, là, ce qui se passe.
Non, ça a été une révélation.
Mais pendant 25 numéros, Leïla, vous avez vu des gens pleurer, en fait.
Mais oui. En fait, beaucoup, et j'ai pleuré moi aussi.
Est-ce que
pas
ça
mal.
Vous a détruit psychologiquement?
Bien sûr. Là, justement, je pense aller m'allonger sur le divan de Sam Karman, enfin de Freud.
La finale, c'est ce soir, petite gueule, justement, pourra chanter. Alors, le principe de la finale, très rapidement, ils vont tous chanter 6 nouvelles chansons, auteurs, compositeurs, interprètes, 6 nouvelles chansons totalement inconnues. Les 3 premiers auront la possibilité ensuite de chanter une de leurs premières compositions. Et c'est uniquement dans cette deuxième partie de l'émission que le public décidera avant. C'est le jury et le public votera. Dans le jury, Pascal Obispo, Olivia Ruiz,
Christophe Malice.
Et Christophe Malice du groupe Trio. Et Raphaël viendra également faire des duos, des trios avec eux. C'est ce soir, 22h40 en direct. Il y a d'abord la masterclass à 20h sur
les
le
meilleurs
canal 14.
Moments, les meilleurs moments de cette aventure.
Et 22h40, la finale de The Artist en direct, The Artist avec France Inter, avec France 2. pour révéler de nouvelles plumes et de nouveaux auteurs. Alors justement, vous êtes interprète, Sam Karman, de La Plume d'Éric Emmanuel Schmitt au théâtre Rive Gauche avec Le Visiteur. En plus de ça, vous finissez le montage d'Amis d'enfance.
Ah oui, ça, qu'est-ce que j'ai aimé ce truc-là.
C'est une pièce.
Ouais, on a écrit une pièce avec ma compagne, avec Catherine, et ça, on a galéré pendant des années à la montée, le Covid,
Catherine
le machin.
Catherine Vimfen, parce qu'elle a un nom de famille quand même, Catherine.
Catherine, comment Vimfen. Vous l'appelez?
Vimfen.
Vinfen.
Vinfen.
Voilà,
Vinfen.
Bon, voilà. Faut penser au bois.
Au bois de Vinfen.
et pour vous,
c'est la meilleure blague de la journée.
Comme ça, on retient son nom. Et
c'est ce qu'elle dit elle-même.
Et elle mérite
d'avoir
vous, un
nom. Pour vous, faut penser au vin mousseux.
Et donc, on a galéré pour la montée au théâtre. On a été balancé, on s'est fait balader plusieurs fois par certains acteurs, par certains directeurs de théâtre, que je ne citerai pas, ils se reconnaîtront. Et puis finalement, tout d'un coup, tout est arrivé, tout s'est aligné. De
Alignement des étoiles.
Ah ouais, mais incroyable. Et on a tourné cette pièce. On devait la tourner dans un théâtre, mais façon film. Et puis les théâtres étaient fermés. Donc c'était une bonne occasion, mais on n'avait pas de décor. Donc finalement, on l'a fait en décor naturel. Saint-Rémy-de-Provence.
Et ça passera sur France 2.
Et ça passera sur France 2.
Il y a au casting Isabelle Gélinas, Nicolas Briançon, François Vincentelli, Anne Jacquemin.
Ouais.
Et vous avez co-réalisé avec Serge Calfon cette pièce. Très bien. Et le 16 juin, vous avez publié Conversation du bout du monde chez Jean-Claude Lattès. Conversation avec Damien Seguin.
Tout à fait.
De Lille, hein, puisqu'on est, on a fait Lille Seguin, autant faire le bois de Vincennes.
Non, mais c'est ce navigateur qui a fait le Vendée Globe et qui n'a qu'une main. Il a quand même fait, il est arrivé sixième sur la ligne de cette course en solitaire pendant 80 jours. Enfin, c'est incroyable ce que ce garçon
réussi à faire. Ouais. Théâtre Rive Gauche, Le Visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt avec Sam Karman. Merci Sam.
Ah, merci, j'ai passé un bon moment avec vous. Merci
également
beaucoup.
Lundi, c'est Cécile de France et Benjamin Voisin qui seront nos invités pour Les Illusions perdues. Mais d'abord, des excuses à présenter, Daniel.
Absolument, déjà, désolé pour tous ceux qui aiment le fric, la thune, la fraîche, la maille, le cash, le grisby, le panache, quoi. Aujourd'hui, avec Sam Karman, on était petit budget, équité, partage. Ouais, il nous a pas vendu du rêve, je sais. Désolé, heureusement, hier, avec Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy, on a parlé gros budget, caché, indécent et mépris du petit personnel. Ça faisait un bien fou. Cool. Désolé pour les scénaristes de Navarro qui ont pu entendre de la bouche de Sam Karman que certains épisodes qu'ils avaient écrits étaient, je cite, à chier. Et encore, vous n'avez pas entendu ce qu'il disait sur les films qu'il allait tourner ou l'émission qu'il venait de faire. Il a dit vraiment des horreurs. Désolé enfin pour les critiques du Masque et la Plume et nos auditeurs qui sont tous férus de théâtre, qui aimeraient tellement aller voir la pièce dont parlait Morgane, à savoir celle où, je cite, Laurent Baffy glisse sur sa bite. C'est vrai, le pitch est incroyable, mais les auteurs sont encore en écriture. Il va falloir encore attendre un tout petit peu.
Ouais, il y a son film qui arrive, Laurent Baffy. Passez une bonne journée. On se retrouve ce soir, je compte sur vous, 22h40 en direct pour The Artist et à lundi. Bon week-end.